Catherine Gaudreau analyse l'actualité de la Mauricie au 106.9 Mauricie.
Que la Mauricie se lève.
Bonjour, M. Blondin.
Bon matin, Mme Gaudreau.
Bonjour, M. Blondin. Donc, chez vous, est-ce qu'actuellement, ça se fait, ça, ce redéploiement du personnel?
Ça se fait, mais dans des rares exceptions, là, en fait. Là, puis quand ça se fait à l'intérieur de la même école. Donc, ça s'est fait un petit peu plus au printemps dernier, là, parce que ça vient de l'arrêté ministériel là, qui avait été signé le 22 mars de l'année dernière par la ministre de la Santé, là, Mme McCann. Puis l'année passée, nous, c'est ce qu'on avait appelé le secondaire en renfort au primaire. Donc, il y avait des gens du secondaire qui étaient bien heureux d'aller soutenir le primaire lorsque le primaire est revenu en classe.
Okay.
Mais cet arrêté-là est encore en vigueur. Puis nous, dans la lettre qu'on a fait parvenir aux membres du personnel, c'était tout simplement pour faire un rappel, pour pas que si dans une situation, un matin, par exemple, on avait à réaffecter un membre du personnel, que cette personne-là soit surprise, là, puis qu'il comprenne pas trop qu'est-ce qui se passe. Donc, c'était dans un souci de prévention, mais c'est vraiment exceptionnel là, quand on utilise...
OK. Mais juste, petite question là qui revient à la base. De l'enseignement ressources, c'est quoi ça, M. Blondin?
Ben en fait, c'est une enseignante qui peut travailler en sous-groupe avec des élèves qui ont certaines vulnérabilités, là, donc des élèves qui sont sortis de leur groupe classe pour aller travailler des notions particulières.
OK. Donc, parfait. Là, je voulais juste être sûr qu'on comprenne bien. La pénurie, là, je sais qu'on s'est vécu partout, là. Elle s'explique comment? Qu'est-ce qui fait qu'on est constamment en manque d'enseignants comme ça?
Ben en fait, il y a deux choses. Hein. La pénurie est pas nouvelle. La pénurie là, existe depuis, je vous dirais, 2-3 ans, là, où quand on discute avec les gens des ressources humaines, là, c'est un combat pratiquement hebdomadaire là, d'avoir tout notre monde là, pour combler tous nos postes. Mais avec l'arrivée de la pandémie, ça je vous dirais que ça a multiplié les défis. Ben, oui, parce qu'on a quand même beaucoup de membres du personnel. On a quand même un certain nombre de membres du personnel qui sont exemptés à cause de conditions de santé, donc qui sont à la maison, qui peuvent pas nous offrir de prestations de travail dans les établissements. Puis on a aussi quotidiennement des gens qui doivent aller passer des tests de dépistage, donc qui s'absentent une journée, deux journées, le temps de recevoir les résultats. Donc, tout ça combiné ensemble fait en sorte qu'on a des défis quotidiens là, de remplacement de personnel. On le fait là dans la majorité des cas par de la suppléance, des gens qui sont disponibles en suppléance. Mais là aussi, les suppléances, nos banques sont pratiquement vides. Puis les gens commencent à avoir presque des postes à temps plein là, dans notre centre de service scolaire.
Mais donc, mettons, M. Blondin, avant la pandémie, là, chez vous, au centre de service scolaire La Rivière, il en manquait combien des enseignants avant?
Je peux pas vous dire combien, mais il y avait des secteurs qui étaient plus compliqués à combler. Là, on l'a souvent dit au niveau des services de garde, là, les éducatrices en service de garde, c'est un défi depuis quelques années.
Okay.
Puis dans les écoles, ben des enseignants d'anglais, des enseignants de mathématiques, de musique, c'est des denrées rares. Donc, quand on réussit à en trouver une, on est bien content de notre coup, là, mais c'est des denrées rares depuis quelques années.
OK. Et si je vous parle du taux d'absentéisme, vous me dites tout à l'heure, bon, il y en a qui sont retirés du travail pour des raisons médicales. Bon, il y a les tests de dépistage et tout ça. Actuellement, le taux d'absentéisme chez vous, il est à combien à peu près?
Écoutez, j'ai pas les chiffres. Il est pas démesuré par rapport aux années précédentes, là, mais c'est sûr qu'il est un petit peu plus élevé là, qu'il l'était là, dans les dernières années.
OK. Ça veut dire que, M. Blondin, dans la réalité, là, au quotidien, est-ce que pratiquement quotidiennement, dans des classes, on manque d'enseignants? Là? Il y a des matins qu'on fait, bon, c'est pas là, on va se tourner vers qui? Ça arrive, ça, sans dire régulièrement, fréquemment?
En fait, quotidiennement, si on prend l'ensemble du territoire, là, on a à remplacer des enseignants qui s'absentent, là, puis on les remplace dans la grande majorité par des enseignants dans notre banque de suppléance, mais il arrive occasionnellement un matin où, par exemple, on peut demander à un technicien en éducation spécialisée de remplacer une enseignante à la maternelle parce qu'on n'a pas trouvé personne pour la remplacer. Donc, c'est vraiment des cas d'exception. Puis ça se passe vraiment à l'intérieur des écoles même. Là, c'est pas entre écoles. On n'a pas réaffecté, là, moi que je me trompe, là, mais de, par exemple, d'enseignante d'une école, d'une professionnelle d'une école X vers une école Y. Là, si on le fait pas, c'est toujours à l'intérieur des mêmes écoles.
OK, mais donc, je peux comprendre c'est l'inquiétude de l'auditrice qui nous a écrit parce que dans les services qui sont offerts, c'est sûr que l'orthopédagogue qui vient donner un coup de main dans une classe puis vient remplacer, si elle le fait 3 fois dans la semaine pendant ce temps-là, elle fait pas son vrai travail, vous comprenez? Les services qu'elle doit rendre à d'autres jeunes, là, il y en a pas, là, donc il y a un manque, clairement.
Oui, effectivement, vous avez raison, puis si on s'en cache pas, là, ça peut amener un trou de service temporaire. Mais au niveau des professionnels, là, c'est en dernier recours là, qu'on demande à nos professionnels d'aller remplacer une enseignante. Mais je ne cacherai pas que c'est arrivé occasionnellement là, où une enseignante ortho, par exemple, une enseignante ressource là, a dû remplacer une journée une enseignante qui était en test de dépistage, par exemple.
OK. Et sinon, là, si on se place en mode solution, quelles sont les pistes de solution pour améliorer les choses, M. Blondin?
Ben, écoutez, le recrutement, amener davantage d'étudiants dans les facultés d'éducation. On a besoin de profs pour les prochaines années. On va en avoir beaucoup. Puis on se croise les doigts aussi hein, pour que la pandémie nous donne des répits et du répit, puis qu'on puisse revenir à la normale, puis pas avoir de besoin de membres du personnel supplémentaire là, pour combler les mesures sanitaires qui nous sont demandées aussi là.
OK. Monsieur Blondin, avant de vous laisser partir, si vous me permettez, je change de sujet. La semaine dernière, on apprenait que la ville de Nicolet là, était intéressée à accueillir la nouvelle école primaire. Le centre de services scolaires de la Riveraine, à quel moment on va prendre la décision officielle? Est-ce que Nicolet est bien considéré pour l'instant? Est-ce qu'ils sont les seuls en liste?
En fait, je veux dire ce que j'ai dit plusieurs fois. Là, on est loin de la coupe aux lèvres. Hein. Nous, c'est une analyse interne qu'on a fait, qu'on a partagé au ministère de l'Éducation là dans nos besoins pour les prochaines années. Puis ce qu'on constate, c'est que dans le secteur, entre autres, de Nicolet, on est en déficit d'espace. On est déjà en déficit d'espace, puis on le sera beaucoup plus là dans les 3-4 prochaines années. Donc, nous, on a fait une demande d'ajout d'espace là au ministère de l'Éducation. Donc, la balle, présentement, est au ministère de l'Éducation. Puis on devrait avoir des réponses là dans le courant d'ici la fin de l'année.
OK, mais c'est le ministère qui décide d'école, elle s'en va où?
Non, en fait, qui décide si effectivement il nous alloue une enveloppe pour.
OK, ça va.
Nous, on a fait via une demande de construction neuve parce que le nombre de classes justifiait une construction neuve, mais le ministère de l'Éducation pourrait nous offrir un agrandissement de l'école, par exemple.
Là. OK, mais donc, jusqu'à maintenant, bon, le Nicolet s'est manifesté, mais est-ce que les besoins sont plus criants à Nicolet qu'à d'autres endroits?
Ben en fait, on a fait le même exercice là sur l'ensemble de notre territoire, puis on a présentement là, 3 écoles en construction. Mais effectivement, Nicolet, c'est un milieu qui est en croissance de population, puis la clientèle là, scolaire, là, quand on regarde d'ici 5 ans, là, c'est des grands besoins qu'on va avoir pour cette école-là.
Donc, ça veut dire que dans un monde idéal, dans le meilleur des mondes, en fait, quand est-ce qu'on pourrait prendre une décision? Quand est-ce que ça pourrait être annoncé?
Ben, dans le meilleur des mondes, si on avait une décision favorable là, à la fin de l'année par le ministère de l'Éducation, ben c'est un dossier qui sera pris par le conseil d'administration là, au cours de la prochaine année scolaire. Mais assurément que la ville de Nicolet, là, puis nous ont fait part de leur grand intérêt d'accueillir une école sur leur territoire, d'autant plus que les besoins sont identifiés là.
Je comprends. OK, merci, M. Blondin.
Ça me fait plaisir.
Merci, au revoir. Pascal Blondin, directeur général du Centre de services scolaires de la Riveraine.